Alors, je voudrais avant tout d'abord remercier, je t'appelle Jean-Marie, de m'avoir invité à cet échange. À cet échange, et je considère ce moment que nous allons passer ensemble comme un moment où peut-être je vais clarifier un certain nombre de choses sur certaines idées, images, positionnement que le MRA peut véhiculer, caricaturer parfois. Et puis surtout, moi, je voudrais le remercier parce que il est important que de temps en temps on puisse prendre un peu de la hauteur. Mais c'est pas une hauteur au sens méprisant et hautaine du terme. Mais lorsqu'on parle des droits de l'homme, on peut en parler effectivement de manière philosophique, de manière, j'allais dire, sous forme d'incantation. Bon. Mais si j'ai accepté de venir, c'est non pas pour venir faire un cours, même si on est dans un espace universitaire, mais pour vous dire, alors on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, comment, à l'épreuve de mon expérience, à l'épreuve de mon vécu en tant que militant, mais en tant que citoyen, eh bien, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de référents, un certain nombre d'icônes qui fondent, y compris l'image, l'identité même de la France, en France et à l'extérieur, et notamment en termes de droits de l'homme, sur le terrain de l'universalité, et eh bien, comment cette réalité de l'universalité des droits de l'homme, comment cette question de l'altérité, c'est-à-dire comment l'autre, qui est différent, je le regarde et je le traite comme mon égal, ça pourrait être quelque chose de tout à fait légitime, eh bien, comment dans cette société, dans cette France, qui a enfanté donc cette déclaration des droits de l'homme, qui lui en a donné son caractère universel, eh bien, cette déclinaison de cette valeur fondamentale, cette utopie que j'appellerais indispensable, mais en même temps qui est un combat inachevé, eh bien, comment cette réalité des droits de l'homme, cette image que peut représenter la France sur cette problématique-là, comment un militant, et voilà, je vous demanderai de prendre mon propos sur ce terrain-là, comment un militant l'analyse et comment on confronte, à partir de mon vécu, de mon expérience, de ce que je vis, de ce que j'entends, des combats que je mène, eh bien, quel est le sens réel que ces deux icônes, pour nous, pour moi fondamentales, que représentent donc l'universalité des droits de l'homme, et puis en même temps l'altérité, eh bien, quel sens ils ont aujourd'hui. Alors, je voudrais tout d'abord dire que bon, c'est une invitation au débat, on l'a dit. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de brosser ce que aujourd'hui, y compris en prenant des faits d'actualité, eh bien, cette réalité a comme prolongement effectif, comme danger. Alors, je partirai d'abord d'un constat. Ensuite, j'essaierai d'expliquer le pourquoi de ce constat, et puis peut-être sur, évidemment, quelles pistes on peut apporter. Alors, tout d'abord, je voudrais mettre en avant un élément. C'est que la France, l'histoire de France l'a montré, y compris sur le terrain des droits de l'homme, elle est capable du meilleur comme du pire. Et je ne vais pas vous faire ici une déclinaison à la fois historique des drames, des souffrances que la France a pu générer par certains États. On ne va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé dans les années 40. Mais en même temps, elle est capable du meilleur comme du pire parce qu'effectivement, le meilleur, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est les Lumières et c'est aussi les militants, les citoyens, ces hommes et ces femmes qui, dans des moments les plus difficiles, ont été capables de résister, de ne pas accepter l'inacceptable, et qui aujourd'hui encore, je le dis, dans une France, on y reviendra, marquée par une libération de la parole raciste, par le fait qu'il y ait un certain nombre de dérives et que les défenses immunitaires ne sont plus au rendez-vous de ce qu'on sera en droit d'attendre vis-à-vis du respect de l'autre, eh bien, dans ce contexte-là, il y a aussi ces résistants. Donc, la France, c'est un peu ça, c'est-à-dire ce capable du meilleur, ce capable du pire, mais en même temps, ce capable du meilleur et du pire qui peuvent aussi cohabiter dans des moments les plus difficiles. Il peut y avoir cette cohabitation, et parfois, c'est le rapport de force entre les forces du meilleur et les forces du pire qui permettent, à un moment donné, de donner un véritable sens à cette réalité de donner à cette universalité des droits le sens d'une réalité concrète et du respect de la dignité et de l'égalité effective des droits, eh bien, un élément important. Alors, ce paradoxe français est à mon avis à évaluer à l'aune peut-être de ce constat et d'une réalité. Et je m'excuse, je peux être parfois un peu provocateur, même si mon propos, j'accepterai les critiques, pourrait être plus nuancé, mais des fois, il vaut mieux peut-être préciser de manière un peu provocatrice tel ou tel point pour peut-être amener à ce qu'on puisse trouver après dans le détail les nuances appropriées. La première réalité, c'est que si la France n'est pas un pays raciste, force est de constater qu'il y a un vent mauvais, aujourd'hui et hier, de pratiques, de comportements et d'attitudes racistes. Et ça, paradoxe, patrie qui enfantait les garçons des droits de l'homme, patrie qui effectivement fait de ce combat du respect de l'autre, dans son intégrité, dans ses droits, eh bien, le constat, il est là, c'est-à-dire le vouloir que l'autre n'existe pas, parce que c'est ça le racisme. C'est que je ne veux pas que l'autre existe, l'autre parce que différent, l'autre parce que étranger, l'autre parce que sans papier, l'autre parce que ne faisant pas partie d'une communauté, d'un certain nombre de points, de repères, etc. Eh bien, vouloir que l'autre n'existe pas, c'est ça le racisme. Je ne veux pas que tu existes dans mon entreprise, et je ne dis pas ça de manière brutale, ce n'est pas parce que je suis un fasciste, mais j'estime que tu n'es peut-être pas de plein pied avec, l'ensemble de la société ou avec ma clientèle. Je veux pas que tu existes dans ma cage d'escalier parce que tu es différent de moi et je peux continuer comme ça, etc. Donc la première forme du racisme et cette définition du racisme par rapport à l'autre, c'est de vouloir que l'autre n'existe pas. Et ce vouloir que l'autre n'existe pas, c'est terrible parce que les dégâts et ce que ça peut générer, on ne mesure pas. C'est d'une violence inouïe. Ce vouloir que l'autre n'existe pas, par exemple, sur le terrain des discriminations, excusez-moi du terme, mais j'ai vécu ce qui s'est passé au moment de ce qu'on a appelé les événements de banlieue, ce que j'appelle moi une insurrection révélatrice d'un trop-plein d'eux, d'un trop-plein d'injustice, d'humiliation cumulée. Cette révolte des sans-voix, ni visage, incapable peut-être d'apporter une analyse, mais soyons clairs, pour avoir été en contact avec ces populations, habitants, moi le 93, ayant grandi en Seine-Saint-Denis, eh bien, je me rends compte que, eh bien, c'est un trop-plein, avec des dégâts terribles vis-à-vis des gens qui vivaient autour, mais ce qui a structuré ce trop-plein, c'est aussi une autre forme de violence. C'est cette violence d'une société qui fait que, et je peux en attester, que je n'accepte pas l'autre, l'autre parce que né. L'autre parce que né. Eh bien, pour revenir à ce qui s'est passé au moment des événements de banlieue, eh bien, soyons clairs, moi je me suis engagé dans le cadre du combat qui est le mien au moment de la marche de l'égalité, que certains ont appelé la marche des beurs, ce que je ne supporte pas. Le beurre, c'est bon pour les tartines. Mais la marche pour l'égalité, il y a 23 ans, cette marche, au départ, elle est partie de jeunes des quartiers qui avaient vécu et qui continuent à vivre aujourd'hui des problématiques avec des clientèles qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. La question de la violence des rapports entre la police et une partie de la jeunesse Et je ne suis pas là pour stigmatiser la police, ni une partie de la jeunesse, mais c'est une réalité. Quand on n'a qu'une politique que sécuritaire, eh bien, il y a des affrontements et des confrontations. La marche de l'égalité était partie de ces lieux de relégation, de souffrance. Et je me souviens, à l'époque, nous étions des jeunes qui voulions qu'on regarde nos parents comme on ne les avait jamais regardés, ces immigrés qu'on avait été chercher pour venir construire la France. Et en même temps, à l'époque, c'était contre le racisme et pour l'égalité. Contre le racisme et pour l'égalité. C'est-à-dire, on tapait à la vitre de cette République, nous, les enfants de l'immigration, j'aime pas le mot issu d'eux, j'y reviendrai tout à l'heure, je préférais héritier de l'immigration. Et l'attente, c'était quoi? C'était de pouvoir être respecté et de pouvoir vivre dignement. De ne pas vivre ce que les mépris que nos parents avaient vécu. Eh bien, ces gamins, que j'avais suivis aussi à l'époque, et j'étais des leurs, ils avaient fait toute la France. Ils sont allés tendre la main à cette société pour dire nous voulons exister. Nous voulons que cette France, avec ses valeurs, ce qu'elle représente, puisse nous donner une place. 23 ans après, les enfants des marcheurs vivent exactement la même chose, si ce n'est pire, ce pourquoi leur père s'était mobilisé pour ne pas vivre ce que leurs parents à eux avaient vécu. Donc s'il y a des moments où il faut mesurer comment la société, la France, la République progresse ou accepte l'autre, c'est avec des signes comme cela. 23 ans après la marche de l'égalité, les enfants des marcheurs, eh bien, vivent non seulement la même chose, mais je serais tenté de dire pire. Et en termes de relégation, en termes de discrimination, en termes de mépris, en termes de dire les « eux » et les « nous », les « eux » et qu'on continue d'appeler « issus » de ces enfants français issus de l'immigration. Entre parenthèses, c'est toujours les mêmes à qui on dit « issus de ». Parce que Sarkozy, il est aussi issu de l'immigration, mais il est issu d'une immigration hongroise. Je n'ai jamais vu un présentateur de télévision ou un chroniqueur présenter M. Sarkozy. M. Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, français, issu de l'immigration hongroise. Alors que ceux dont on dit « issus d'eux », ils sont peut-être, excusez-moi du terme, peut-être plus français que Sarkozy en termes de durée, qui n'ont immigré uniquement du ventre de leur mère. Je vous donne ce petit exemple pour vous dire que cette question de cette violence, c'est la violence du quotidien et la violence de la reproduction des injustices, du vouloir que l'autre n'existe pas, qui participe à une certaine forme de génocide social. Quand je ne veux pas que tu existes, tu la tues la personne. Et donc, voilà un élément qui doit aujourd'hui mettre en avant ce terrible paradoxe. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où aujourd'hui, malgré les intentions, à l'épreuve des faits, à l'épreuve du quotidien, il y a des populations, parce que nées, qui continuent à vivre de manière identique et peut-être pire, parce que je suis tenté de dire qu'il est encore plus difficile aujourd'hui de pouvoir sortir d'une sorte d'assignation à résidence identitaire ou communautaire, etc., même en étant français, que ça ne pouvait l'être hier. Le ghetto dans lequel on a mis des populations font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas sortir. Et les choses se reproduisent. Et je pense que les violences, parce que je parlais de cette violence sociale, c'est un peu souvent ce qu'on dit, c'est qu'on parle souvent de la violence du fleuve, on parle rarement de la violence des berges qui l'en serrent. Or, aujourd'hui, et pour l'avoir vu, par rapport à ce qui s'est passé, on n'en a absolument pas tiré tous les enseignements, eh bien, la question du chômage, de la discrimination dans le domaine de l'emploi, les rapports tendus entre la police et la justice, et une partie de cette population, la question de l'échec scolaire d'un certain nombre de ces populations issues d'eux, eh bien, sont les révélateurs et le combustible de ce qui s'est passé. Donc, on juge l'avancée et l'état d'avancée de cette société à l'aune d'un certain nombre de repères en v'là un. L'autre élément qui m'amène à dire que, et j'ai un regard pessimiste, mais en même temps je suis un pessimiste actif, hein, c'est que il faut dire que ce qui entretient et structure le déni d'altérité, en fait. Le racisme, c'est ça, c'est le déni d'altérité, c'est-à-dire je refuse que l'autre soit l'égal d'eux, fait que c'est quelque chose qui est porté par une idée simple, c'est que la France ne s'est pas libérée du racisme. Elle ne s'est pas libérée du racisme, pas de manière, comment dirais-je, idéologique, fascisante, bien que. Hein. C'est que il y a une vraie question centrale qui fait que comment cette société, d'une manière générale, regarde l'autre. Comment elle regarde l'autre, et de surcroît l'immigré, prenons l'autre immigré, mais ça, pour faire simple, au-delà du fait que l'autre ne peut pas être considéré uniquement que comme un objet économique, au service d'intérêts conjoncturels et spécifiques, mais aussi un sujet de droit et de dignité. La vraie question, elle est là. C'est comment aujourd'hui la société, d'une manière générale, avec ses institutions, avec aussi ses politiques, etc., regarde l'autre. Comment on regarde l'autre? Est-ce qu'on regarde l'autre comme un peu son égal? Je reviens à cette idée d'altérité. Ou est-ce que l'autre, y compris même les enfants, qui sont, comme je disais tout à l'heure, pour un certain nombre d'entre eux français, eh bien, ne peuvent être traités et considérés comme ni plus ni moins que des personnes qui peuvent être que des objets. Objets économiques, instruments de rejet, instruments politiques, j'ai parlé tout à l'heure, mais pas un sujet de droit, pas un sujet de dignité, pas un sujet de respect. Et donc ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire comment l'autre, je le regarde, et comment au-delà du « je le regarde », comment la société fait un effort, mais de manière réciproque, parce qu'on peut demander à l'autre aussi de faire l'effort. Effectivement, si ça va pour reprendre la marche des beurs, le nombre de pas qu'ils ont fait vers la société, mais quels sont les pas que la société fait, et notre société, vis-à-vis de ces populations? Comment il y a cette réciprocité? Eh bien là, le constat, il est clair. C'est qu'on demande toujours aux mêmes un certain nombre de devoirs, et on oublie que la République peut être aussi porteuse d'un certain nombre de devoirs vis-à-vis de ces populations. Si je prends juste une revendication, et qui est tout à fait révélatrice et significative de cette absence de pas, parce que des fois, il y a des pas symboliques. Je prends le droit de vote et d'éligibilité des étrangers, ne serait-ce qu'à l'élection locale. Voilà une façon de passer de l'immigré, de l'immigrétude, au citoyen. Je regarde l'autre un peu comme mon égal. Je lui donne la possibilité, au moins sur une ville, non seulement où la République est exigeante en termes de devoirs, c'est-à-dire il doit payer ses impôts, enfin, etc., mais quel geste que je fais pour faire de telle sorte que cette personne puisse être mon égal, y compris pour choisir mon maire. 81, on a proposé le droit de vote. On nous avait dit à l'époque, l'opinion publique n'était pas du tout prête. Et bien, le travail des associations a participé à faire de telle sorte que il ne peut pas y avoir, et je mets des guillemets, de l'intégration sans, à un moment donné, une reconnaissance. Bien. Eh bien, 81, aujourd'hui 2006, ben, ce droit de vote n'existe pas. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas pour dire bon, que François Mitterrand avait fait, bon, bref, il n'y a pas eu une volonté politique, c'est manifeste. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'à travers ça, on touche aussi les faiblesses de la République et de ses valeurs. Le non-droit de vote des étrangers, c'est-à-dire que l'autre comme mon égal, voilà, on est dans l'altérité, entre parenthèses, en termes de droit, signifie que, en fait, au-delà de la discrimination, au-delà du mépris, c'est le fait que, eh bien, notre démocratie est bancale. Parce que je vais vous dire franchement, que vaut aujourd'hui le poids et la légitimité d'un maire lorsque 10, 20 ou 30% de la population est exclu du fait qu'il puisse être choisi par eux. Donc c'est un problème de démocratie, c'est un problème de respect de dignité. Et puis en même temps, on a vu, quand il n'y a pas d'égalité, certains pouvaient, à moindre frais, cracher sur une population en les faisant porter l'ensemble des difficultés, l'ensemble des problèmes de la société, sans que pour autant ces personnes que vous stigmatisez puissent demain vous sanctionner. Donc je prends cet élément, c'est-à-dire que la façon dont on ne respecte pas l'altérité de l'autre, de celui qui est différent, eh bien, met en relief l'état de bonne ou de mauvaise santé des valeurs mêmes de la République. Donc ce n'est pas uniquement une problématique vis-à-vis d'une personne à qui on dénie un droit, c'est aussi la façon dont cette société, dans ses fondamentaux, dans ses fondations, fonctionne. Troisième élément, qu'est-ce qui peut structurer aujourd'hui le fait que cette France, elle est crampée mentalement vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce qui participe effectivement à ce déni de l'altérité? Il y a d'abord, à mon avis, plusieurs facteurs qui taraudent cet état de fait. Le premier est évidemment psychologique. Bon, tout ce qui est différent fait peur. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, je vous le disais tout à l'heure, c'est que c'est l'approche et le regard qu'on a vis-à-vis de l'autre. Comment je le considère? Je ne reprends pas ce que je vous disais il y a quelques instants sur le caractère utilitaire ou pas. La deuxième chose, c'est que le deuxième facteur, et en fait, c'est des facteurs cumulés et qui se déclinent de manière singulière et voire même plurielle, sont les facteurs économiques. C'est ce que moi j'appelle le racisme de crise. Et ça existe. Dans des périodes difficiles, et on le voit bien, les logiques du bouc émissaire fonctionnent. Les logiques du trop de fonctionnent. Il est là aussi, le racisme. Et comment on participe à mettre en relief le trop de. Et parfois, là encore, il y a des phrases malheureuses. Hein, bon, c'est pas que je le dis dans un seul sens, parce que tout à l'heure, je taperai sur d'autres. Quand on dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, les gens pourraient dire que c'est du bon sens. Moi, j'aurais préféré qu'on dise, mais oui, mais qu'est-ce que la France peut faire pour soulager la misère du monde? Et comment on peut faire pour créer les conditions de ne pas entretenir le trop de. Tout comme, alors, terrible, c'est la banalisation, sans aucune réaction, de ce mot, de ce concept, qui pour moi est teinté d'intention et de volonté de xénophobie, c'est quand on me parle d'immigration choisie par rapport à une immigration subie. C'est le discours qu'on a entendu ces derniers temps, avec la nouvelle politique d'immigration. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit immigration choisie par rapport à une immigration subie, ça veut dire que ceux qui sont ici sont en trop. C'est une charge, c'est un poids. On est loin, là, encore, de l'altérité. Le sens des mots, c'est pas ici que je vais en donner plus de détails. Donc, voilà pour ce qui peut être porté, c'est-à-dire que en quoi ce racisme de crise, en quoi ces logiques du bouc émissaire, en quoi cette politique qui entretient d'une manière ou d'une autre les questions et les problématiques du trop avance. Troisième facteur, de cette structuration de ces blocages mentaux, c'est ce que j'appelle un peu l'instrumentalisation politique de la différence et de l'autre. Et là, on sait bien, hein, ce qui taraude le rejet de l'autre, c'est la peur, c'est le développement des idées de menaces, le fait que l'autre, il n'est pas porteur d'éléments qui peuvent permettre de vivre ensemble. Et donc, là encore, je pense que on peut reprendre à travers un certain nombre de discours politiques, à travers la façon dont on appréhende certaines problématiques dans une seule direction qui favorise cela. Et puis en même temps, je dois le dire, c'est que notre discours a changé. Enfin, le discours ambiant a changé. Ils sont rares, disons-le clairement, les hommes politiques ou ceux qui aujourd'hui ont un poids dans l'opinion publique à venir autour d'une idée simple, c'est que l'autre, il enrichit. C'est que l'autre est aussi une chance pour chacun d'entre nous, pour la société. Et je me souviens, à une époque, il y avait des hommes politiques qui disaient « l'immigration, une chance pour la France ». Et ce n'était pas des gens de gauche qui disaient ça. Aujourd'hui, il est loin, ce discours-là, et cette volonté. Alors, il y a cet élément. Et puis, je trouve ce qu'il y a... Il y a eu des effets, malgré les discours qu'on peut tenir, et qui ont été, pour moi, tout à fait désastreux. C'est la façon dont on a ethnicisé un certain nombre de problèmes de société. Et qu'on le veuille ou non, je ne vais pas parler des événements de banlieue, quand on entend des discours où on dit ces événements de banlieue sont dus, c'était la première explication donnée par le ministre de l'Intérieur, au problème de la polygamie, ça voulait dire concrètement, voilà, c'est pas un problème franco-français, c'est question des violences. On oublie ce que je viens de vous dire précédemment, mais c'est à cause de l'immigration. C'est sur le terrain culturel, sur le mode de vie qui est porteur d'une certaine violence, etc. Donc voilà. Et ça y participe aussi d'une certaine manière, tout comme tous les discours démagogiques qui a participé à la lepénisation des esprits, visant à mettre au centre de gravité de l'ensemble des difficultés et comme seule et unique réponse, comme cause et comme effet, la question de l'immigration. Et je pense que là, on a pu voir des choses importantes. Alors, facteur psychologique, facteur économique, l'instrumentalisation politique. Et là-dessus, c'est vrai qu'à chaque période électorale, et actuellement je suis très inquiet, on a vu les désastres de ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles, où le thème de l'immigration et l'insécurité, le couple terrible, est en train de se rejouer entre aujourd'hui, mais avec un troisième I, c'est immigration, insécurité, islamisation de la société française. Et ça va être terriblement violent, hein, comme on est au début, et il me semble que dans ce domaine-là, il y a aussi un certain nombre de problèmes. Alors, autre élément qui structure cette crampe mentale, et qui est aussi un défi, et qui est porté ici et là dans les débats, c'est la question du refoulement collectif autour d'un passé, et notamment un passé colonial, que la France n'assume pas totalement et complètement. Alors pour être très, très simple, c'est, ou très rapide, pour ne pas aller trop à fond dans ce domaine-là, moi je crois qu'on ne peut pas créer les conditions du vivre ensemble, ou du regard de l'autre, ou qu'on puisse regarder l'autre à égalité, si à un moment donné, l'autre... on ne le regarde pas dans toute sa dimension, y compris dans ce que l'histoire de France a pu générer comme douleur et comme souffrance. Et je pense que, par exemple, l'histoire de France et son rapport avec le colonialisme, les désastres et les dégâts de vie qu'elle a générés, et sont des choses qui, aujourd'hui, continuent à structurer. Parce que, dans un premier temps, refoulé, eh bien... un regard qui prolonge cette immigration vis-à-vis de ces populations. C'est-à-dire comment aujourd'hui le refoulement autour de la guerre d'Algérie, autour du colonialisme, peut structurer en fait une sorte d'inégalité de traitement vis-à-vis de telle ou telle population et vis-à-vis des enfants. C'est une vraie question. Et quand de surcroît on voit que maintenant... on refuse de reconnaître ce qui a été fait à l'époque au nom du peuple de France, ce que le colonialisme a été, quelle a été son intention, on revient encore sur l'utilisation économique, les désastres culturels qu'ils ont pu générer, enfin bref, je ne vais pas ici faire le listing, mais la France ne le reconnaît pas. Et le fait que ces choses-là ne soient pas reconnues, il y avait un grand homme qui avait dit, plus on regarde son histoire, plus on assume cette histoire dans ses forfaits, dans ses méfaits, plus on libère de la place pour l'avenir. Or aujourd'hui, effectivement, je pense que sur cette question de la France et de son rapport colonial, eh bien, le compte n'y est pas. Je serais même tenté de dire, c'est même pire, puisque vous avez vu qu'il y a encore quelque temps, ne serait-ce que l'année dernière, le 23 avril, on est passé du refoulement à la glorification des bienfaits du colonialisme avec cette proposition qui avait été faite sur la loi du 23 février visant à demander à ce que dans les établissements scolaires, eh bien, on parle et on participe à glorifier les bienfaits du colonialisme. Alors, terrible! Terrible d'abord sur un plan éthique, parce qu'il n'appartient pas à une assemblée, à des députés ou à des sénateurs d'écrire l'histoire, c'est aux historiens de le faire. Puis la deuxième chose, quel mépris là encore, je reviens un peu à mon discours précédent, quel mépris vis-à-vis de ces peuples, c'est-à-dire que on ne reconnaît même pas les destructions qui ont pu être faites vis-à-vis de ces populations, l'appropriation par la force d'un certain nombre de moyens de production, etc. Et on veut même le glorifier. Eh bien ça, ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles de part et d'autre. Et là, on voit l'émergence, dans un certain nombre de conflits, de ces problématiques mémorielles. Et c'est pas un hasard si je crois que cette question de l'histoire de la mémoire, par rapport à ces populations issues de cette immigration, je préfère héritier, est quelque chose qui est profondément porté et exigeant vis-à-vis d'une reconnaissance et en même temps d'une prise en compte. Parce qu'ils ont, à mon avis, touché du doigt le fait que c'est quelque chose qui structure la reproduction de tel ou tel type de discrimination. Et c'est vrai qu'on ne peut pas construire un vivre ensemble, on ne peut pas regarder l'autre comme son égal, si on n'a pas lu, si on n'a pas écrit et si on n'a pas reconnu l'ensemble de ce qui a été fait au nom du peuple de France. D'où ces derniers temps, on voit ici et là ces mobilisations tout à fait légitimes. Alors, de ce cadre-là, et de ce constat, il y a aussi le fait que la question de nier l'autre dans son histoire, dans ses souffrances et dans son identité structure aussi ce type de comportement. Alors, je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse avoir. Alors, ça c'est la dimension économique, psychologique, politique, etc. Et en même temps, je dois dire que s'il y a aujourd'hui une réalité où cette société est en crise, je ne suis pas uniquement là pour dire que c'est de la faute à. Je pense que on est dans une société où les acteurs de cette société sont incapables, ont été incapables d'anticiper les mutations de cette société, de reconnaître la société telle qu'elle est et telle qu'elle progresse. Et là, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ravages de l'exclusion, de la stigmatisation et de la relégation, c'est que on a souvent mal nommé les choses. Et on n'a pas pris en compte le fait qu'il y a des répercussions d'un mal nommé des choses, mais en même temps de la façon dont on a voulu traiter l'autre. Je prends un exemple sur la conception républicaine de l'intégration visant à l'assimilation. Alors là, on est vraiment, et on a pu le voir pendant une certaine période, ça a été le discours. L'objectif, tu rentres dans la société française, tu es un peu comme un cachet d'aspirine effervescent, tu te dissous dans l'eau, tu n'existes pas. Il faut que tu deviennes comme tout le monde. Eh bien, cette politique assimilationniste, elle a apporté, et elle porte aujourd'hui, des résultats tout à fait désastreux. Puisque, effectivement, l'individu ne peut pas rentrer dans une société en se niant totalement et complètement. Et donc là, effectivement, moi je crois qu'il y a, cet élément. Pareil, sans rentrer dans un débat sémantique, il y a ce mot extrêmement piégeant et ambigu. C'est ce fameux concept d'intégration. Alors, qu'on parle d'intégration, effectivement, pour quelqu'un qui arrive sur le sol de France, qui ne parle pas la langue, qui ne connaît pas les coutumes, qui ne connaît pas les institutions, rien de plus normal. Mais lorsqu'on parle d'intégration à des populations qui n'ont immigré de nulle part, si ce n'est que du ventre de leur mère, comme je dis souvent, il y a quelque chose de tout à fait anachronique. Qu'on nous parle d'intégration sociale ou de désintégration sociale pour l'ensemble des populations. Mais le plus grave, c'est l'effet psychologique d'un discours récurrent qui n'apporte pas de réponse. Par exemple, quand pendant 30 ans, l'ensemble de la classe politique utilise cette expression « il faut que les immigrés s'intègrent ». Il faut que les immigrés s'intègrent. Et quand on voit un certain nombre de problèmes et de phénomènes, où on remet la couche sur cette problème d'intégration et son lien avec l'immigration, on suggère à l'opinion publique, d'une certaine manière, depuis le temps qu'on en parle, si on n'y arrive pas, ça vient un peu de leur faute. Et on est là sur une logique, mais de manière consciente ou inconsciente, qui reproduit d'une certaine manière un certain nombre de ces difficultés. Alors ça, c'est un premier élément. Autre élément, c'est cette incapacité à pouvoir anticiper un certain nombre de réalités et de la réalité de la diversité de la société française. Et là-dessus, je prendrai deux cas un cas qui est tout à fait révélateur de cette tension et dans lequel on a été, nous, à la fois impliqués, critiqués, stigmatisés, c'est la problématique de la laïcité. Alors, je ne dis pas si nous sommes, nous, un mouvement laïque, nous sommes attachés au principe de la laïcité, mais on a vu émerger le problème de l'intervention dans l'espace public d'une population qui était jusqu'à présent invisible, qui est la population musulmane, et la question du foulard et la question de la loi autour des signes religieux en était un révélateur. Alors je vais être très clair, nous on a toujours été opposés au port du foulard à l'école, contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là. Mais nous étions personnellement, enfin nous étions au niveau du mouvement, contre le fait que la meilleure façon de pouvoir créer les conditions d'une véritable laïcité, y compris dans l'espace scolaire, c'est de passer par la loi. Et que le plus important, c'était de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ce phénomène. C'est-à-dire ce phénomène identitaire, ce phénomène d'identification. Et à force de nier l'identité d'un certain nombre de personnes, de leurs parents, ça peut revenir en boomerang et parfois sous d'autres formes. Et moi, je crois que dans cette question, dans l'émergence, dans cet espace public, de ces populations issues de l'immigration et cette question des foulards, c'était quelque chose qui était révélateur aussi de cela. Refuge pour certains, provocation pour d'autres, mais révélateur du fait que, à vouloir nier certaines identités, elles reviennent sous d'autres formes. Au-delà du fait que, peut-être, la République ne donne plus les repères que certains avaient besoin d'attendre. Donc, ce qui était plus important, moi, à l'époque, j'avais dit, c'était ce que la République et l'école de la République étaient capables de mettre dans la tête de ces gamines pour pouvoir les émanciper. Et puis, en même temps, après, il y avait une autre réalité, que ce débat n'a absolument pas porté, et moi je le dis en tant que laïque, c'est quelle est la place de l'islam, deuxième religion de France, dans un pays laïque, marqué par une tradition judéo-chrétienne, et en proie à un racisme anti-arabe et anti-musulman que le contexte national et international entretient. Voilà les questions qui n'ont jamais été apportées, appréhendées, sous cette forme-là. Et quand on les appréhende, c'est sous forme effectivement d'une loi, avec le débat qu'il y a eu. Et on a vu comment les choses se sont déchirées. Comment se sont déchirées, y compris dans le mouvement même antiraciste. Nous avons, nous, une position qui est proche de celle de la Ligue des droits de l'homme, mais il y a d'autres qui ont fait de la laïcité et qui, à mon avis, ont détourné le sens même de ceux qui ont fondé la laïcité. C'est pas la laïcité, c'est pas une arme contre les religions. C'est comment on crée un certain nombre de lois qui permettent de vivre ensemble, qui fassent que ce qui relève du religieux relève de sa simple et unique conscience personnelle, en dehors du vivre ensemble. Donc, ça me paraît un autre élément. Autre élément qui montre à quel point il y a une réticence à prendre en considération un certain nombre d'expressions du racisme, et le MRAP, vous avez certainement dû en entendre parler, a fait l'objet d'attaques. Moi, j'ai une position qui est claire. C'est que on peut et on doit, dans notre démocratie, critiquer toutes les religions. Aucune religion ne peut souffrir d'un quelconque d'une quelconque interdiction d'une critique. Aucune. Et y compris l'islam qui doit se confronter à la critique sur un certain nombre de sujets, sur le problème de l'égalité homme-femme, sur les problèmes de la lapidation, enfin bref, tout à fait d'accord. Mais la deuxième chose, c'est quelle est la frontière entre la liberté d'expression et le racisme? Et quelle est la limite qu'il y a à la liberté d'expression? Moi j'en mets une, eh bien c'est celle de la justice et du droit. Eh bien, lorsqu'il y a eu une caricature raciste que j'ai dénoncée et que nous avons dénoncée. C'est pas le fait qu'on attaque une caricature, c'est tout à fait légitime qu'on caricature. Mais lorsqu'on fait une caricature dont le message participe à véhiculer une simple équation, celle où le prophète est présenté avec la bombe sur la tête. C'est-à-dire qu'on envoie le message selon lequel, eh bien, chaque musulman est porteur en soi de violence et est responsable des exactions commises au nom de l'islam par certains intégristes. Donc on est sur l'amalgame, on est sur la peur, on est sur l'incitation à la haine. Eh bien, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais à partir du moment où il y a une caricature dont le message en soi abîme, blesse, et peut tomber sous le coup de la loi, eh bien on est intervenu. Eh bien je peux vous dire que ça a été terrible ce que vous avez peut-être dû lire, etc. Ce n'est pas les caricatures, ce n'est pas tous les journaux, y compris certainement pas Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo est un journal de caricatures d'un point de vue historique. Bien. Donc, c'est le deuxième élément. Troisième élément, il est d'actualité. Redeker. Voilà un philosophe qui est devenu un héros. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai ma position, elle n'obéit absolument pas. J'ai été attaqué dans beaucoup de journaux, de Bernard-Henri Lévy, en passant par Alain Finkielkraut, qui a déclaré « Il faut avoir un soutien inconditionnel, inconditionnel à M. Redeker. » Bernard-Henri Lévy, exactement la même chose. Et ma position, elle est claire. C'est que oui, dans cette affaire Redeker, il y a deux affaires. La première, c'est les menaces dont il a fait l'objet. Elles sont inacceptables. Elles doivent être non seulement condamnées, mais la protection de la société française est tout à fait plus que légitime. Mais il y a une deuxième chose que je ne peux pas légitimer, c'est le fait que quand il écrit, la chose suivante, c'est que chaque musulman est élevé dans la haine et la violence parce que le Coran participe et incite à la haine et à la violence. Donc, il essentialise une violence sur le terrain religieux. Eh bien non, je ne peux pas faire de quelqu'un qui tienne ce type de propos un héros. Je suis solidaire des menaces dont il fait l'objet, mais de dire un soutien inconditionnel, non. Eh bien, là encore, je peux vous dire que combien j'ai vu de gens qui ont été blessés, combien j'ai entendu de personnes par rapport à ce type de propos, et le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'hommes politiques, d'intellectuels, sans condition, font de Redeker un héros. Ben moi, je dis que c'est dangereux parce que ça participe à banaliser aussi ce rejet par rapport à l'autre. Troisième élément, et qui est une réalité dans le mouvement antiraciste qui nous divise, c'est et qui touche cette problématique d'altérité et d'universalité. C'est que il faut être clair. Et ça, j'ai pu l'expliciter dans un article que j'avais publié dans Le Monde sur la tribalisation de l'antiracisme. C'est que on peut à la fois avoir un discours qui consiste à dire l'universalité des droits de l'homme, la lutte contre tous les racismes. Or, aujourd'hui, force est de constater que entre les intentions, les déclarations et la réalité, eh bien, disons-le clairement, il n'y a pas aujourd'hui une concrétisation de cette universalité. Et il y a, nous on défend une conception, et qui est peut-être le nœud de la crise actuellement entre le mouvement antiraciste, nous on est pour une conception du racisme qui conjugue spécificité et unicité. C'est-à-dire que je ne nie pas qu'il y a un racisme anti-rome qui a des spécificités, qu'il y a un antisémitisme qui a à la fois des données et des éléments d'explication à la fois historiques et en même temps présentes, vis-à-vis du racisme anti-arabe avec une dimension d'exclusion, le colonialisme, etc. Bref, ça, effectivement, il y a des spécificités. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une unicité, c'est-à-dire que le racisme, il est indivisible. On ne peut pas retirer ou échapper à l'idée que on doit traiter, en fait, ce combat-là dans son unicité et de manière globale. Or, aujourd'hui, soyons très concrets, je vois de plus en plus de discours où on nous dit il faut lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut combattre l'antisémitisme, il faut combattre le racisme anti-arabe, il faut combattre le racisme anti-noir, il faut combattre le racisme contre les tziganes et gens du voyage, qui est une réalité aujourd'hui que personne, que peu de mouvements se sensibilisent. Mais de grâce, pourquoi l'antisémitisme serait-il une forme, dans son exposé, différente des autres racismes? Et regardez bien comment, dans des discours officiels, publics, on parle de racisme et d'antisémitisme. Pour moi, l'antisémitisme est une forme de racisme, comme n'importe quelle autre. Elle doit être combattue avec la même vigueur comme n'importe quelle autre, mais force est de constater ce qui n'est pas le cas. Et d'autre part, c'est vrai qu'on a eu, sur cette dernière période, des divergences d'explications sur la montée de l'antisémitisme, par exemple. C'est un phénomène réel. Mais par exemple, il y a eu une divergence vis-à-vis de certaines associations où nous, on estime qu'effectivement, il y a eu une fièvre il y a 2 ans d'actes antisémites qui sont tout à fait à la fois inacceptables et sur lesquels nous sommes mobilisés. Mais nous avons vu comment il y a eu un phénomène extrêmement inquiétant, comment certains discours ont mis en avant que l'antisémitisme était lié aux banlieues et les banlieues à des populations issues de l'immigration, etc. Or, moi je l'ai dit, ce sont des actes, je ne dis pas qu'il n'y a pas des populations, des quartiers qui ont commis ces exactions, c'est des exactions de voyous, mais il n'en demeure pas moins que moi j'ai intégré ça dans le cadre de l'ensemble des violences qui existent aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers dans lequel il faut intégrer cette donnée-là. Eh bien là encore, on a eu quelques divergences avec d'autres personnes. Et puis, autre élément qui fait qu'il y a des digues qui ne résistent pas et qu'il y a des... la confusion des repères. La confusion des repères. Et là-dessus, il y a 2 phénomènes qui me paraissent extrêmement inquiétants. Le premier, c'est par exemple ces recompositions que l'actualité a montrées, entre Dieudonné et puis Le Pen et Tribuca. C'est-à-dire... comment aujourd'hui, à partir d'un combat légitime qu'avait mené Dieudonné sur la problématique de l'esclavage, il est allé sur le terrain de la confrontation sur des guerres mémorielles, c'est-à-dire les miens ont souffert plus que les tiens. Et on voit aujourd'hui ce combat entre Finkielkraut et puis Dieudonné, et surtout cette recomposition extrêmement inquiétante d'un homme comme Dieudonné qui a été un des militants anti-Front National, son passé est tout à fait révélateur, se retrouver avec Le Pen il y a 15 jours et avec les gens de Tribuca qui ont des discours tout à fait racistes. Donc là encore, devant l'opinion publique, là il y a un trouble. Autre trouble, c'est les dérives sémantiques, non pas de l'extrême droite, et qui libère la parole raciste, et qui participe au rejet de l'autre. Je vais prendre 3 personnes, je ne vais pas aller plus loin. Les propos de Georges Frêche, président de région, membre du Parti Socialiste, vis-à-vis des harkis, il a utilisé cette terrible formule. Vous êtes des sous-hommes, et vous vous êtes laissés égorger comme des porcs. Vous êtes des sous-hommes, ça me rappelle Untermensch. Et vous êtes laissés égorger comme des porcs. Regardez la double symbolique. Par rapport à des musulmans égorgés comme des porcs, et puis des sous-hommes. C'est ce qui a été terrible. Elles ont été où, les condamnations? J'ai écrit, moi, à Hollande. Le Pen aurait dit, il aurait tenu les mêmes propos, je peux vous dire, et ça aurait été légitime. Mais comment se fait-il qu'il a fallu attendre 3 mois pour qu'on le retire, en termes de sanctions, d'une instance dans laquelle il ne siégeait pas, et j'ai été au procès, puisque nous avons porté plainte, et je peux vous dire, qui ne bouge pas. Et ce même personnage, et là c'est un élément de dérive, reprend à son compte, et là on est vraiment, c'est le révélateur, dans le déni de l'altérité, quand il parle de l'équipe de France de football. Le fait qu'il n'y ait que des Noirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, quand il voit un Noir, il ne voit pas un Français. C'est ça. Et venant de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Fraîche, mais Finkielkraut dit exactement la même chose. Quand il a parlé de l'équipe de France de football, dans son interview au journal Arets, en disant, c'est l'équipe de France qui était black, blanc, beurre, qui est maintenant black, 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 et qui fait la risée de toute l'Europe. On est bien dans notre sujet sur l'altérité. C'est comment aujourd'hui un certain nombre de voix, qui sont des philosophes quand même, Alain Finkielkraut qui a été pour moi une icône dans mon engagement, dans l'universalité du combat qu'il a pu apporter, ce qu'il a pu écrire. Et je ne vous parle pas de Pascal Sevran. Pascal Sevran. Je ne prends pas les termes, ce n'est même pas la peine. Mais de grâce, elles sont où les sanctions? Il est encore dans le service public. Il est encore dans le service public et il est encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on lui ait dit vous allez avoir un blâme, etc. Ce qui est grave là, c'est que dans ce combat pour l'altérité, à travers tout ce que je viens de vous dire, ce qui montre la complexité, c'est là qu'on voit que les choses s'effritent. C'est que il y a une dérive et il y a une libération par le fait que, ben voilà, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, ne permet pas aujourd'hui d'apporter les réponses. Alors, je vais conclure pour qu'on puisse avoir échangé les conséquences de tout ça. Je crois qu'il faut avoir conscience que tout cela va participer, à mon avis, à poser une vraie question pour le devenir de la société française. C'est-à-dire, je serais tenté de dire que tant qu'on ne... Enfin, si on n'est pas capable de régler toutes ces questions, si on n'est pas capable de donner effectivement à l'altérité un sens réel pour tous et partout, nous aurons, parce que c'est tout à fait irréversible, une montée des exigences et des revendications communautaires. Et nous allons aller vers la fin du modèle français d'intégration. Ou lorsque les... qui était jusqu'à présent, même s'il y a eu des pannes, et les gens s'intégraient de manière individuelle. Eh bien là, nous aurons, et il y a des signes qui le portent, par un certain nombre de revendications, de mise en place de collectifs, je ne vais pas reprendre ici la déclinaison de l'activité des indigènes, de Tribuca, de l'association CRAN, même si je ne mets pas des signes d'égalité partout. Hein. Mais, en même temps, je crois que c'est quelque chose qui va arriver. Alors, je conclue en donnant quelques pistes de réponses, parce que j'ai essayé de disséquer, de décortiquer un peu la problématique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à créer les conditions d'une révolution mentale. Cette révolution mentale qui devrait prendre en compte le bon sens. C'est-à-dire qu'une identité n'est jamais figée. Et qu'une identité qui se recroqueville sur elle-même, c'est comme une civilisation, c'est comme une cellule, elle ne peut que dépérir. Et donc, il faut prendre en compte de manière mentale qu'il n'y a pas d'avenir de la société française, il n'y a pas d'avenir de notre civilisation, il n'y a pas d'avenir de l'identité française sans effectivement la capacité de pouvoir s'ouvrir aux autres et de regarder les autres, non seulement... sur le terrain économique, mais de prendre en considération tous les apports. La deuxième chose, il faut faire avancer concrètement une idée simple. C'est qu'aujourd'hui, on a, malgré les discours qui sont tenus ici et là, une sorte de blocage, je reviens encore à cette crampe mentale, qui fait qu'il faut bien que cette société accepte que demain et aujourd'hui, tu peux t'appeler Mouloud, Sidi B, Yasmine, être noir et être français. Et que être français, c'est plus uniquement, alors c'est pas un deuil qu'il faut faire, c'est une réalité, c'est que ce n'est plus être blanc, catholique, enfin bref, etc. Donc, je crois que tant qu'on ne prendra pas en considération, et là aujourd'hui il y a une immense attente. Regardez tous ces gamins au moment des événements de banlieue, et même dans les expressions aujourd'hui en s'inscrivant sur le électorat, qui montrent leur carte électorale. C'est qu'il faut accepter l'idée, accepter et faire accepter, mais au-delà de l'idée, et après ça doit se décliner dans le quotidien, c'est que être français, eh bien, c'est aussi Yasmine, Mohamed, Sidi Bé, etc. Et puis, je crois qu'il faut, me semble-t-il, qu'il y ait un effort plus conséquent de casser les assignations à résidence symboliques qui permettraient de faire débloquer un peu les mentalités. À savoir, bon, en gros, la diversité, on l'accepte bien, et dès lors qu'elle est assignée à résidence. C'est-à-dire la diversité et la pluralité dans le showbiz et dans le football, pour faire court. Mais tant qu'on n'aura pas intégré que cette question du respect de la diversité et de l'égalité effective sur la base de la compétence, pas sur la base de logique communautaire, eh bien, c'est faire de telle sorte que, il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale soit réellement à la couleur de la France. C'est vrai que quand on se promène dans certaines rues, même à Bordeaux ou même dans le fin fond de la France, je ne vous parle pas d'autres départements, et qu'on regarde à FR3 les débats à l'Assemblée nationale, on se dit on n'est peut-être pas dans les mêmes pays. Et là-dessus, la France est en retard, même par rapport à d'autres pays dont on pourrait avoir quelques critiques. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique, je pense à l'Angleterre, etc. Donc il va falloir peut-être qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus volontariste, qui permette de banaliser dans les lieux de pouvoir, dans les espaces politiques, dans la haute administration, et aussi dans les médias. Pas uniquement en mettant un noir aux 20h, bon, à la limite, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment aujourd'hui, cette puissance médiatique, qui structure aussi les mentalités, eh bien, elle peut réellement prendre en compte toute la diversité. Et ça, c'est un défi terrible. Donc, comment, sur l'espace politique, comment sur les espaces médiatiques, comment dans la haute fonction publique, parce qu'hier, le président de la République était dans mon département, mais je peux vous dire, je suis passé, en tant qu'élu, je peux vous dire, la diversité, elle n'y était pas dans la haute fonction publique. Donc, comment banaliser cette réalité et casser ce plafond de verre? Parce qu'on ne vient pas me dire qu'il n'y a pas des gens compétents. Moi, vous prenez un bottin de téléphone par profession de la Seine-Saint-Denis, vous allez voir des médecins, vous allez voir des avocats, vous allez avoir des chefs d'entreprise et, ayant, excusez-moi, des noms à consonance étrangère. Donc il va bien falloir qu'il y ait une libération de ce comportement qui doit permettre, me semble-t-il, à faire de telle sorte que, eh bien, on banalise cette réalité. Et puis, je suis pour la fermeté, peut-être surpris. Parce que je suis de ceux qui disent que le travail d'éducation, le travail sur les mentalités est important. Et j'oublie une chose, dans ce travail sur les mentalités, il doit y avoir un peu plus, me semble-t-il, de volonté, et au-delà des volontés, d'actes qui intègrent dans le patrimoine français l'ensemble de l'apport d'hier, d'aujourd'hui et de demain de ces populations étrangères. C'est-à-dire sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan économique. Et je trouve qu'il faudrait, là, dans la banalisation, effectivement, de cette diversité, et dans la mise en valeur et perspective de cette réalité, comment on intègre dans notre patrimoine commun cette diversité. Et là, effectivement, je crois qu'il y a un effort conséquent à mettre en route. Alors, oui, je vous disais, c'est avoir une attitude très ferme. Si je prends uniquement la question des discriminations, je vais commencer là-dessus, je finirai là-dessus. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est une plaie, cette discrimination. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était le curseur de ce qui a généré ces événements, et à mon avis, c'est pas fini si on ne traite pas au fond. La question, elle est qu'aujourd'hui, on discrimine des bacs plus 8 comme des bacs moins 10. On discrimine des immigrés, mais aussi des Français. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et la France, aujourd'hui, met dans les angles morts de l'égalité républicaine ses propres Français. Et il y a ce terrible paradoxe, c'est un phénomène massif. Massif. On a 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche avec une carte d'identité française, quand on a un nom à consonance étrangère, entretien d'embauche. 5 fois moins de chances. Français, immigrés, phénomène massif. L'année, on a une loi qui n'est pas une mauvaise loi, la loi française contre le racisme. L'année dernière, sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas eu plus de 20 condamnations prononcées par les parquets sur le terrain de la discrimination à l'emploi. Pas plus de 20 condamnations. Eh bien, ce genre de constat rend légitime la pratique discriminatoire. Et je pense que l'une des façons de lutter, c'est pas de dire « les associations, c'est ce que vous faites ». Non, on est sur une rupture du principe d'égalité, c'est une responsabilité d'État, on doit mettre les moyens de l'État. Et en venant tout à l'heure, je lisais le journal, le gouvernement se félicite des résultats sur l'insécurité routière. Ce qu'on est capable de faire sur l'insécurité routière, on n'est pas capable de le faire sur l'insécurité de l'indignité dans laquelle vivent des personnes. Et là, la sécurité routière, c'est une volonté politique. On a mis les moyens de l'État. La police a été mobilisée, la justice mobilisée, les médias mobilisés. On n'a pas appelé les associations pour mettre les radars. Donc, il y a, me semble-t-il, là, au-delà de ce que je disais tout à l'heure, il faut aujourd'hui casser cette dynamique de l'impunité et faire de ce combat, non pas un combat de circonstances, non pas quelque chose qui est dans le cadre d'une campagne électorale, etc., mais effectivement une réalité. Et quand je dis discrimination, c'est individuel et institutionnel. Enfin, je terminerai en disant on peut... Alors, parce que j'ai dépassé mon temps, là. Hein, on est jusqu'à... Bon. Je terminerai en disant que cette réalité doit nous amener effectivement à peut-être poser peut-être une perspective un peu optimiste. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui pourra peut-être aider à l'amplification de toutes ces petites recettes que je vous ai proposées. Je ne dis pas que c'est une panacée, mais ça veut dire que il y a l'iceberg qu'on voit souvent dans l'actualité, et j'essaie de vous montrer peut-être un peu plus ce qu'il y avait en dessous, et à la fois les profondeurs et le mal. Mais il se passe quelque chose, et je le vois moi dans les réunions et dans les débats publics, c'est que aujourd'hui, incontestablement, il y a une maturité politique qui est en train de se lever, émanant de ces populations des quartiers populaires, pour parler simple, qui ont compris une chose, c'est que exister, c'est aussi exister politiquement. Et le fait que ce soit inscrit sur les listes électorales, le fait que demain, ces populations peuvent demain faire et défaire un maire, un député, et même au-delà, peut être un élément important pour booster un peu plus les politiques dans les réponses auxquelles, malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils souhaitaient. Donc, c'est un de ces enjeux de ces échéances électorales. J'espère qu'effectivement, ces questions que je viens de dégrainer, ces problématiques, de manière un petit peu désordonnée, parce que j'ai fait vraiment un petit plan comme ça, soient portées. Mais en attendant, je n'entends pas dans l'ensemble des discours politiques les réponses aux enjeux qui sont ceux que je viens de vous décrire. Et je crois que si on ne le fait pas, tout porte à craindre que les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, il me semble qu'on risque d'avoir des réveils douloureux. Et une fois de plus, le risque est grand de voir ce constat. C'est qu'il faut qu'il y ait des drames et des catastrophes pour que la société en trouve une paupière, la société et les politiques, et après la referme dès lors que les caméras ne sont plus présentes. Aujourd'hui, il n'y a pas les caméras, mais au moins il y a l'échange et au moins il y a déjà ces premières pistes. Je vous remercie pour m'avoir écouté attentivement.